toute petite, mon chemin personnel et professionnel s'articule autour de l'expression. Mettre des mots sur ce qui n'était pas dit. Nommer l'invisible, l'indicible aussi. C'est ma quête, depuis toujours. Et cela revêt différentes formes. Cela s'exprime sur différents terrains de jeu. Il y a quelques années pourtant, la source s'est tarie. Plus grand-chose ne sortait de cette bouche, de ce stylo. Le puits était à sec. Pire, on m'avait coupé le sifflet. Comme si cette descente en spéléologie intérieure s'était stoppée net. Comme si je pendais au bout d'une corde entre deux états, au-dessus du précipice, sans pouvoir communiquer avec l'extérieur, mais sans pouvoir entendre ce qui se passait à l'intérieur non plus. Entre deux eaux, bloquées. C'est à ce moment-là que mon expression a pris un itinéraire bis, un chemin de traverse. La bouche était muselée, alors les mots deviendraient couleur. À 32 ans, comme une immense bourrasque terrassant tout sur son passage, la peinture est entrée dans ma vie, avec grand fracas. Je n'ai pas bien compris ce qui se passait, hein. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas ce qui se passe face à une toile. Je ne suis même pas vraiment certaine que ce soit moi qui peigne ce qui arrive sur la toile. Alors pendant longtemps, j'ai opposé cette forme d'expression au verbe, aux mots, à la langue. Il y avait les mots et les images. Et puis un jour, j'ai entendu le dessinateur Sempé, vous savez, le papa du petit Nicolas, dire dans une émission de télévision qu'il n'avait jamais trouvé la case « artiste », illustrateur ou dessinateur dans sa déclaration d'impôt, dans toutes ces boîtes dans lesquelles les gens aiment bien ranger les gens. Ça les rassure. Alors il avait coché la case « écrivain ». Parce que oui, la peinture, le dessin, c'est une forme d'écriture.
Europe 1, pensée positive. Anne Cazobon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Pensée Positive, votre cocktail de développement personnel servi bien frais, installé en terrasse, sous le diffuseur de bonnes ondes. Chaque samedi, on en profite pour lever le pied ou l'espadrille et prendre un temps pour soi. Non, ça ne s'appelle pas de l'égoïsme, ça s'appelle juste du bon sens. C'est un peu comme dans l'avion, vous savez. En cas de dépressurisation, si les masques à oxygène tombent, j'en mets d'abord un sur ma tête, autour de ma bouche, et ensuite, je peux m'occuper des autres. Bref, plus je vais bien, plus je me réalise, plus je peux en embarquer d'autres dans mon sillage. Vous l'aurez compris, jusqu'à 20h donc, on va parler de ce temps des vacances, magnifique occasion de faire un pas de côté pour changer de point de vue, mesurer le chemin parcouru pour mieux enfoncer le clou ou au contraire, changer de tactique dans nos vies pour accomplir et s'accomplir. Alors que demande le peuple? Le programme peut-être, je m'exécute. Donc ce soir, on va s'intéresser à tous ces auteurs en herbe, à ces manuscrits que vous n'avez jamais osé envoyer ou au contraire, à ceux sur lesquels vous travaillez sans oser le dire parfois. On va s'intéresser à l'écriture, à ce refuge pour certains, à cette thérapie pour d'autres. Près d'un tiers des Français a déjà écrit ou alors a songé à le faire, à écrire un livre ou un roman. Et justement, pourquoi est-ce que ce fabuleux manuscrit végète-t-il sur une clé USB au fond d'un tiroir depuis toutes ces années? Comment arrêter de procrastiner et enfin passer à l'action? Vous le savez, dans le développement personnel, il y a personnel justement, hein, et nous, dans Pensée Positive, on a choisi d'entendre non pas ceux qui ont tout mieux compris que tout le monde, ceux-là on les laisse à d'autres, mais plutôt ceux qui ont décidé de mettre les mains dans le cambouis, d'expérimenter, d'essayer ceux qui se trompent, qui se relèvent, qui vont d'échec en échec pour aller jusqu'au succès. Bref, ceux qui sont en chemin vers une meilleure version d'eux-mêmes et qui ont opté pour l'itinéraire bis du développement personnel. Je n'oublie pas notre instant gratitude, hein, on va l'écouter tout à l'heure. L'un de vos merci à un inconnu, cette dame qui vous a tendu un mouchoir alors que vous pleuriez en cachette dans ce train, ou ce monsieur qui vous a fait une fleur sur l'addition alors que vous n'aviez pas un sou. N'hésitez pas d'ailleurs à poster sur les réseaux sociaux vos belles histoires avec ce hashtag « Merci à un inconnu ». Parce que certes, il y a des porcs à balancer, mais il y a aussi de beaux moments d'humanité à souligner et que dans Pensée Positive, on a choisi de les mettre tout en haut de notre fil d'actualité. Oui, jusqu'à 20h, je vous propose de faire le choix de voir le verre à moitié plein. Pensée Positive, c'est parti pour une heure de bonnes ondes sur Europe 1.
Europe 1, pensée positive.
Et pour nous aider, à prendre la plume, j'accueille dans ce studio Mathilde Vermeer. Bonsoir.
Bonsoir Anne.
Alors vous, votre vie s'articule autour du stylo, des mots, votre plume donc, celle que vous partagez avec le plus grand nombre dans des romans, dans des nouvelles, dans des chroniques d'ailleurs que vous publiez généreusement sur les réseaux sociaux, et puis celle des autres aussi, cette plume que vous aidez à affiner, puisque vous aidez pour beaucoup des femmes à accoucher de leurs textes en animant des ateliers d'écriture. Vous allez nous raconter comment vous êtes devenue une sorte de sage-femme des mots, et parfois derrière lesquels bien planqués se trouvent des mots M-A-U-X. À vos côtés, Béatrice Blouet nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir Anne.
Vous êtes une auditrice d'Europe 1, vous êtes auteure, vous avez recueilli des histoires familiales, des histoires d'entreprises familiales pendant des années, et vous expérimentez en ce moment l'écriture, vous avez les mains dans le cambouis ou dans l'encre, hein, on le disait, puisque vous écrivez un récit autobiographique et humoristique de vos aventures et mes aventures à l'hôpital. Vous allez nous raconter ce chemin personnel dans un instant, mais avant cela je voudrais savoir l'une et l'autre, quand est-ce que vraiment vous avez décidé de vous mettre à écrire ? Mathilde Vermeer.
Alors moi j'ai commencé en faisant complètement autre chose, je travaillais en ONG et notamment au Moyen-Orient qui était une zone qui est toujours d'ailleurs très compliquée avec des conflits dramatiques, et face à la réalité de l'histoire avec un grand H, j'ai eu besoin de prendre un stylo et de raconter ce que je voyais, trouver un fil pour témoigner aussi de ce que je voyais, et donc je me suis mise à écrire.
Comme un journal de bord peut-être pour accompagner cette expérience de travail ?
Alors pas tout à fait, enfin, je tiens un journal depuis très très longtemps, mais là c'était une autre expérience. M'est venue l'idée de faire du roman, en fait, de pouvoir, dans une histoire, des personnages, dépeindre ce que j'avais sous les yeux et pouvoir aussi passer des données politiques, sociales, géographiques à travers une histoire.
Et vous, Béatrice Blouet, quand est-ce que vous avez commencé à prendre le stylo ou la machine à écrire, le clavier ?
Alors, la machine à écrire, le clavier, beaucoup plus tard que pour les rédactions à l'école que j'adorais, évidemment. Moi, il y a un support que j'aime beaucoup, c'est la correspondance, les lettres. Et puis, plus récemment, mais évidemment, les feuilletons par mail et puis le blog.
Vous allez me raconter tout ça.
Très récemment encore, une autre écriture encore.
Est-ce que c'est inné, l'écriture ? Est-ce que plus on écrit, mieux on écrit ? Est-ce que c'est comme le piano, au fond ? Plus je joue du piano, plus je deviens virtuose.
Alors, justement, comme le piano, la peinture ou le théâtre, on peut tous explorer notre créativité et choisir le canal qui nous convient. Et je pense qu'on a tous un potentiel créatif. Après, comme toute chose, mais comme la cuisine aussi, il faut expérimenter, pratiquer, progresser. Et du coup, d'où l'intérêt d'aller se confronter à d'autres à un moment ou à un autre. Donc en écriture, aller en atelier d'écriture, c'est quand même très intéressant pour aller lire d'autres choses, aller faire lire ses textes, avoir des retours sur ses textes.
Se confronter,
avoir un retour. Voilà, donc il y a un mélange entre un élan personnel et après du travail, si on a envie de fournir ce travail-là et si on a envie de faire quelque chose de ces mots. On peut aussi continuer à écrire juste pour soi.
Pour quelles raisons, justement, est-ce qu'on est nombreux à avoir envie d'écrire ? Est-ce qu'il y a cette idée de trace, par exemple, chez vous, Béatrice Blouet ?
De trace, pas forcément d'expression, de réussir à déposer quelque part et à le garder, parce que à l'oral, évidemment, ça ne reste pas toujours. Et de trace, oui, c'est un bien grand mot, je trouve, pour moi, mais c'est aussi une nécessité de partager quelque chose et de s'exprimer, oui, assez librement, voire très librement, sur un sujet qui n'est pas forcément facile.
Est-ce que ça peut être aussi un pur exercice de créativité, comme on prendrait un dessin, justement, un pinceau ou un crayon pour gribouiller, un peu comme du doodling, comme on dit en anglais, vous voyez, gribouiller comme ça quelque chose ? Est-ce qu'on peut se mettre à, comme ça, écrire des petits mots ?
On peut tout faire. Hein.
Donc, on a le droit, ça c'est sûr.
On a le droit, et évidemment, il y a cet espace de créativité. Je pense à Apollinaire et ses calligrammes, donc il jouait entre poésie et dessin. Donc évidemment, on peut faire ça, et tant mieux s'il y a du plaisir. Mais on n'est pas obligé que de chercher ce plaisir-là, enfin, ou cette créativité. Ça peut répondre à plein d'autres choses. Je rebondis juste sur l'histoire de la trace. On sait que la frontière entre préhistoire et histoire, c'est l'invention de l'écriture. Donc il y a quelque chose de profondément lié à l'humanité qui est dans le fait de prendre un stylo. Alors à l'époque c'était pas un stylo, mais un outil pour déposer quelque chose,
un
de ce qu'on vient. Voilà. Peu importe. Enfin, de laisser une trace. Oui, c'est profondément humain, je crois, vraiment.
Et peut-être que cet après-midi, sur votre serviette de plage ou lors de votre balade en forêt, vous vous êtes dit que ça avait beaucoup trop duré. Quoi donc ? Bah, la procrastination, pardi. Mais si vous savez bien, ce début de roman, ce fichier Word ouvert en 2005 et qui n'avance pas vraiment. Et si on saisissait l'opportunité de ce temps de vacances pour enfin mettre ses idées au clair et les coucher sur le papier ? On en parle jusqu'à 20h sur Europe 1 dans Pensée positive.
Europe 1, Pensée positive. Pensée positive. Anne Cazobon.
Jusqu'à 20h, on sirote tranquillement un cocktail de développement personnel sur Europe 1. Si, si, il est sur la carte. Il s'appelle Pensée Positive. Et je dois dire qu'on a doublé la dose de vitamines. Mais promis, vous n'aurez pas mal au crâne demain matin. Parce qu'enfin, c'est décidé. Vous vous y mettez. À quoi? Bah, à écrire, voyons. Ça fait des mois, que dis-je, des années que cette idée tourne dans votre tête. Alors cette fois-ci, c'est la bonne, on retrousse nos manches. Mais par quoi est-ce qu'on commence? Mathilde Vermeer, vous qui animez des ateliers d'écriture, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se ruer sur le clavier?
Je pense qu'il n'y a pas de bonne question en fait, faut y aller. Ce qui peut être bien pour que ce soit pas très pas trop intimidant, c'est de commencer en faisant des listes de souvenirs, des listes de lieux qu'on a visités, des listes de moments qui nous ont particulièrement marqués. Et une fois qu'on a une liste comme ça, on peut choisir un des éléments et le déployer autour d'une scène. La scène comme au théâtre, c'est un moment, un lieu, des personnes qui sont présentes. Voilà. Et si c'est une scène, bah, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on va chercher à capturer de cet instant?
Et quelles sont les erreurs de débutants à ne pas commettre? Vouloir tout dire d'un coup?
Oui, alors, l'erreur, ça serait peut-être effectivement de dire trop de choses d'un coup. L'erreur, ça serait peut-être aussi de penser que le premier jet est suffisant. Une écriture demande toujours du retravail, mais ça c'est quelque chose qu'on voit plus tard en atelier d'écriture. Et puis aussi peut-être se méfier des phrases toutes faites, les dictons, les clichés du type « oh le beau manteau blanc de la neige », ces expressions qu'on a tellement entendues, voilà, qu'elles veulent plus rien dire. Et donc l'effort aussi, ça va être trouver sa langue. Si je veux parler la langue, j'utilise quoi comme métaphore? Je dis quoi?
Alors c'est bien connu, on fait tous ce bruit-là quand on écrit. Bah, pas vous? Bah si, c'est sonore l'écriture. Parlez-en à mon clavier sur lequel je passe mes nerfs parfois. Par exemple, nous en radio, je ne sais pas si vous le savez, quand on écrit un texte, une chronique, un journal, une revue de presse, comme on dit ce texte dans un micro, généralement, c'est ce qu'on apprend en école de radio en tout cas, on le verbalise à voix haute en le tapant. Est-ce que justement, pour imiter cette petite musique du phrasé, du juste flow du lecteur qui va entendre la voix de l'auteur en fait en lisant dans sa tête, est-ce que ça peut nous aider d'écrire à voix haute?
Alors oui, c'est la technique de Flaubert. Il avait un gueuloir, c'était une pièce où il hurlait ses textes et il les entendait. Et c'est vrai que quand on passe par l'oralité, on se rend tout de suite compte du rythme d'une phrase et donc de, par exemple, où poser la ponctuation, ce qui est absolument crucial quand on écrit. C'est, voilà, les virgules, parce que ça donne la nervosité d'un style ou la lenteur, enfin le tempo. Voilà, et puis on va pouvoir interroger les choix qu'on a fait de mots, de métaphores dont je parlais il y a quelques secondes. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir s'entendre et voir maintenant, comme on a des super outils tous, pouvoir s'enregistrer sur son téléphone et puis s'écouter après, parce qu'on entend plein de choses et on peut corriger aussi en travaillant à l'oreille.
Voilà. Dans une autre vie professionnelle, vous, Béatrice Blouet, vous avez retranscrit de nombreuses histoires familiales. Oui. Vous avez cueilli ces histoires familiales, vous étiez une cueilleuse d'histoires, une sorte de scribe humain. Comment est-ce que vous avez procédé justement pour passer de cette oralité, de ces légendes familiales, de ces recettes de cuisine, de ces anecdotes de famille, et pour les retranscrire justement en étant au plus juste des mots, pour rester au plus près de l'histoire de famille?
J'ai toujours enregistré toutes les conversations qu'on a pu avoir à partir des souvenirs des familles ou des entreprises, parce que pour moi c'est très important que la personne se retrouve. Moi je suis quand même dans cette activité-là au service de l'entreprise ou de la famille. Mm-hmm. Et s'il y a des fautes de français, s'il y a des tics dans le langage, il faut effectivement les retrouver. Je dis souvent que si votre grand-mère disait « Anne, il faudrait qu'il mouillerait », oui. Elle ne dit pas « ce serait bien qu'il pleuve ». Oui. Et c'est pas votre grand-mère qui dit « ce serait bien qu'il pleuve », mais la vôtre, elle dit « il faudrait qu'il mouillerait ». Et quelque part, dans un livre qui a raconté l'histoire de votre grand-mère, eh bien, faudra trouver « il faudrait qu'il mouillerait », même si on est quand même très au large du français. Mais voilà, donc j'enregistrais, puis après je retranscrivais. Alors ça dépend des formats, soit avec les questions et les réponses, soit avec des choses plus rédigées. Mais quand même, par souhait personnel et par éthique, je dirais que j'ai toujours cherché à être au plus près des mots de la personne et du phrasé, notamment.
Alors je vous propose à toutes les deux d'ouvrir tout de suite un instant doucic.
Franchement, mais qui a eu l'idée de ce truc à la con, là? Tu veux bien me dire?
Alors, c'est moi, mais vous savez ce que c'est, hein? Une langue qui fourche, un néologisme qui apparaît, un éclat de rire, et puis bon, bah, se dire que c'est pas si mal au fond, qu'on garde, que ça a le mérite de bien résumer ce que ça veut dire, que la musique adoucit les mœurs, et que la doucic nous met du baume au cœur quand la vie tangue un peu trop. Et je peux vous jurer qu'avant la fin de l'été, j'ai bon espoir que doucic soit entré dans le dictionnaire. Alors, vos suggestions de doucic, on les attend, hein, sur les réseaux réseaux sociaux avec le hashtag Pensée Positive au pluriel. Et ce soir, c'est Marion qu'on a en ligne avec nous. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Alors vous avez choisi Roar de Katy Perry. Alors dans quel cadre est-ce que cette chanson vous aide ou vous a aidé?
Je ne me souviens plus exactement des circonstances exactes du moment où je l'ai entendue. Par contre, je me souviens exactement de l'émotion. Je devais sûrement avoir dû gérer un conflit, une discussion dans laquelle je m'étais pas sentie à la hauteur. Et du coup, l'émotion, c'était la colère. La colère contre moi, c'est compliqué à gérer. J'étais en voiture et donc je revivais, je me repassais en boucle cette scène, ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais dû faire. Et puis, passe à la radio cette chanson de Katy Perry. Et là, vous parlez souvent de synchronicité dans vos chroniques, Anne. Et ben voilà, c'est tout à fait ça.
Et synchronicité, c'est un peu l'alignement de planète. Hein. C'est la chanson qui vient vous donner presque une réponse à ce moment-là, où le panneau publicitaire qui vous renvoie un message comme pour vous dire « Eh oh, sors un peu de tout cela, là, de ton petit vélo intérieur qui mouline. »
Voilà, c'est comme si j'acceptais cette colère au final. Et que je la transformais pour pouvoir aller de l'avant, quoi.
Bravo.
Après tout, moi aussi, je suis une combattante et je vais y arriver. Et vous allez m'entendre rugir.
Au volant de la voiture, dans le salon, chez vous à la maison, rugissons de plaisir tous ensemble. Merci Marion.
Merci, avec plaisir.
Voici Roar de Katy Perry sur Europe 1. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I sit quiet. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, 'cause I've had enough. I see it all, I see it now. Les incisives et même les prémolaires sur ce Roar de Katy Perry qui, je vous le signale au passage, écrit donc des doucics sans le savoir. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à 20h sur Europe 1, on l'ouvre bien grand et on continue de faire le plein de pensées positives. On fait comme des réserves aussi, tant qu'à faire, pour les jours de disette. Alors restez par là.
Europe 1, pensées positives. Anne Cazobon. Europe 1, pensée positive. Anne Cazobon.
Pensée positive, on est ensemble jusqu'à 20h pour parler de développement personnel, de réalisation de soi et d'écriture. Toujours en compagnie de Mathilde Vermeer, auteure et animatrice d'ateliers d'écriture, et de Béatrice Blouet. Je voudrais qu'on parle justement de ce qui vous anime. Vous êtes auteure en ce moment et en fait vous êtes en plein accouchement d'un livre. Vous êtes en pleine écriture d'un journal de bord de ce que vous appelez vos aventures et mésaventures hospitalières, parce qu'il se trouve que vous expérimentez, comme on dit, la maladie, ce qui vous a conduit à faire plusieurs séjours à l'hôpital.
Oui, exactement. Ça fait
quelques années maintenant pour une maladie un petit peu récalcitrante. Et comme l'expression écrite est quand même mon expression favori, mon moyen favori, j'écris pour donner des nouvelles
à vos proches,
à mes proches. Alors,
vous teniez un blog.
Voilà, je tiens un blog assez fermé, puisque effectivement c'est assez personnel quand même. Mais voilà, ça me permet de donner des nouvelles et surtout de les donner d'une façon un petit peu plus édulcorée ou un petit peu plus humoristique que la réalité réaliste, comme je dis, de l'hôpital et du parcours médical.
C'est ça, parce que vous choisissez un point de vue bien particulier, vous choisissez de regarder les petites choses décalées, bizarres, drôles, dans ces chambres cliniquement froides et blanches.
Oui, c'est ça, c'est en fait... C'est pas tellement, c'est un choix, c'est sûr, mais c'est surtout une nécessité parce que c'est absolument intolérable pour moi de passer dans les examens médicaux et de voir les successions de médecins et les successions de d'avis, voilà. Et du coup, je choisis toujours un détail. Alors, ça peut être effectivement le plateau repas ou un détail du plateau repas, comme les carottes allemandes qui ressemblent furieusement à des carottes Vichy. Quand même s'étonner d'autant d'audace historique. Et puis, ou alors les conversations. Alors ça, j'adore les conversations des soignants qui commencent dans le couloir, qui s'arrêtent un petit peu, mais qui continuent quand même, et que j'essaye de terminer à ma façon. J'essaye de prendre vraiment des détails qui, en soi, sont totalement anodins, mais qui, moi, me permettent de passer au travers de tout ça.
Donc, au départ, c'était un blog, et là, vous êtes en train de passer du digital au papier.
Voilà, alors...
Vous êtes en transition.
C'est ça. En janvier dernier, les temps étaient très très durs pour moi, et j'avoue que je ne trouvais pas du tout de ressources personnelles pour affronter ce qui devait m'attendre encore et qui m'attend toujours un petit peu. Et du coup, je me suis dit, comme la matière existait un petit peu dans le blog, je vais la retravailler et pour en faire un recueil de chroniques humoristiques, chronologiques. Et voilà. Donc je me suis mise tous les jours à travailler, hein, des fois 5 minutes parce que c'était pas plus... C'était pas possible de travailler plus.
Parce que parfois, physiquement, vous ne le pouviez pas, hein, voilà, c'est à préciser.
Voilà, c'est ça.
C'est votre santé ne vous permettait pas de travailler plus de 5 minutes par jour, parfois.
Oui, voilà. Et puis, comme voilà, ça, je ne pouvais pas non plus taper le fameux bruit de la machine à écrire, toujours. Donc, en fait, j'ai beaucoup dicté pour pouvoir conserver et après passer à l'écrit. Et en le faisant tous les jours, y compris le samedi et le dimanche, toujours un peu, et bien finalement, à un moment donné, j'avais... une centaine de pages. Et j'ai eu la chance de rencontrer un illustrateur qui, parce que moi j'avais fait des photos avec mon téléphone qui étaient absolument abominables. Donc il est hors de question que ces photos soient publiées. Et par contre, Emmanuel Simonet, qui est un illustrateur de talent, illustre du coup des situations qui vont... vraiment, il a l'art de...
Il vous a dessiné d'ailleurs, ça vous ressemble beaucoup, vous m'avez montré quelques planches. C'est vrai que voilà, c'est en élaboration. Vous avez un titre déjà pour cet ouvrage?
Oui, pour l'instant il s'appelle « Pourtant tu as bonne mine ».
Et c'est vrai que vous avez bonne mine. Un
éditeur? Mais c'est génétique, c'est ma grand-mère qui disait ça.
Et un éditeur?
Et un éditeur, non, pas encore.
Eh ben, l'appel est lancé, hein. Pensée positive@europe1.fr. Jusqu'à 20h sur Europe 1, on parle d'écriture. On se retrouve dans un instant, juste le temps de changer la cartouche d'imprimante, bien sûr.
Pensée positive sur Europe 1. Cazobon. Europe 1, pensée positive. Anne Cazobon.
Jusqu'à 20h, dans Pensée positive sur Europe 1, on parle d'écrire sa vie, son œuvre, pour aller mieux peut-être, pour se réaliser, certainement. Alors pourquoi est-ce que l'on écrit, hein? Ça fait un peu sujet de philo, mais comme on a l'antenne que jusqu'à 20h, on va laisser Caroline Loeb nous lire ce qu'en dit François Sagan.
Écrire, c'est comme marcher dans un pays inconnu et ravissant. Ravissant, mais parfois humiliant quand on n'arrive pas à écrire ce qu'on veut. Là, c'est la petite mort. On a honte de soi, on a honte de ce qu'on écrit, on est minable. Écrire reste un effort d'humilité effrayant. C'est quelque chose avec quoi on n'a pas le droit de plaisanter. Moi, je crois à l'honnêteté.
On n'a pas le droit de plaisanter avec l'écriture, c'est un art noble. C'est un pays inconnu, nous dit Françoise Sagan dans Je ne renie rien. C'est un pays inconnu et ravissant, mais parfois humiliant. Mathilde Vermeer, vous qui êtes auteur aussi, est-ce que vous vous sentez parfois humiliée par votre incapacité à écrire, là tout de suite, dans l'instant?
Alors, humiliée, je sais pas, mais frustrée, oui, vraiment.
On traverse hein, quand on écrit, on traverse beaucoup d'états émotionnels.
Oui. Bah, en fait, l'écriture, c'est jubilatoire, mais c'est extrêmement difficile aussi. Écrire un roman, c'est une cathédrale, il faut poser les fondations, il faut bâtir, il faut imaginer et bâtir tout le bâtiment, il faut poser les bonnes briques au bon endroit, et donc ça nous fait vivre effectivement beaucoup de choses, c'est très exigeant, mais c'est un peu, je dirais, comme le marathon, vous ne vous mettez pas à courir le marathon comme ça, et ça demande de l'entraînement, et ça demande d'aller chercher dans vos ressources, et au passage, bah, vous traversez différents épisodes.
Est-ce qu'on peut dire du coup que l'écriture est thérapeutique si ça me fait traverser de la colère, si je pleure en écrivant? Est-ce que c'est à visée thérapeutique?
Alors, moi je dirais pas que l'écriture est thérapeutique. L'écriture existe depuis des millénaires. Les êtres humains ont toujours raconté des histoires avant de les écrire et ça servait, il y a une dimension initiatique dans l'écriture. On raconte comment on traverse des épreuves et comment ça nous fait grandir. Après ça peut avoir un effet thérapeutique, ça peut nous soigner de certaines choses, mais c'est pas le but. C'est comme quand vous faites un gâteau au chocolat, c'est délicieux à goûter, mais c'est pas pour autant que c'est thérapeutique, ça vous sort. Je pense que l'écriture vient nous chercher un autre endroit qui est celle de l'expression de nous, peut-être pour certains moments d'une vocation, de quelque chose à faire passer, quelque chose à comprendre aussi, parce que quand on écrit, on vient revisiter des choses, que ce soit à travers ses personnages ou soi-même. Il n'y a pas de différence entre, pour moi, là-dessus, entre l'autobiographie et la fiction. En tout cas, ça nous amène à aller plus loin dans nos expériences, à éclaircir des choses. Et donc, oui, ça peut être thérapeutique, mais c'est pas le but. Voilà, ça peut être un effet secondaire.
Béatrice Blouet, vous qui expérimentez la maladie, est-ce que vous sentez qu'à un endroit, vous allez un peu mieux avec l'écriture ?
Oui, moi clairement, oui, et surtout sur le fait de se concentrer sur comment je retranscris, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, et éventuellement dans la relecture aussi, où tout d'un coup, des fois j'ai un peu le vertige sur des choses que j'ai dites ou exprimées, ou au contraire, des fois je suis passée très très au large de réellement ce que je vivais ou je ressentais. Donc oui, moi, enfin en tout cas dans l'exercice. Comme activité, ça permet effectivement de se concentrer, de passer du temps aussi, parce que il y a des temps, les temps médicaux sont un petit peu longs, les salles d'attente. On connaît tous l'attente dans les salles d'attente qui porte bien leur nom.
Et les magazines des années 80 qui restent là.
Voilà. Donc ça permet aussi des fois de se soustraire de juste du moment là d'attente.
Mathilde Vermeer.
Pour compléter, je dirais qu'en fait, écrire nous permet surtout de vivre plus vaste, d'expérimenter quelque chose de plus large qui nous traverse.
Ça élargit le champ des possibles, alors.
Oui, et ça élargit aussi, nous, notre regard sur le monde. Et aussi, en faisant tout l'effort d'aller choisir ses mots, eh ben, on met de la poésie dans sa vie, on met de l'intensité. Il y a quelque chose qui est vraiment très, très fort dans ce travail de la langue, en fait. De trouver la langue, trouver le point de vue et trouver comment on raconte cette histoire.
Alors ça, c'est la gratitude qui est en bas et qui me demande le digicode pour nous rejoindre. Parce que vous le savez, l'un des ingrédients essentiels pour faire un bon cocktail de développement personnel, bah c'est la gratitude.
Tout ce que vous faites, c'est critiquer, critiquer et critiquer.
Mais oui, je sais, c'est bien ça le problème. On est champion hein, pour ne voir que le petit nuage au milieu de ce grand ciel bleu qui s'offre à nous. Oui, les Français sont champions du monde. Pour aller, hein, ça c'est sûr, pour le ballon rond, il reste encore 2 matchs, je le rappelle. Oui, si on fait le choix de se focaliser sur ce qui était heureux, joyeux, positif dans notre journée, ce coup de fil avec cet ami qui habite loin, et l'impression de reprendre la conversation là où on l'avait laissé, ce chouette moment de communion autour des Bleus, hier face à l'Uruguay, ce rosier en fleurs dans votre jardin, vos petits-enfants qui viennent d'arriver pour la semaine en vacances. Oui, trouver chaque jour un moment pour lequel nous sommes reconnaissants nous permet d'apprécier la vie telle qu'elle est, d'arrêter de chercher à l'extérieur de soi et de se rendre compte parfois que tout est bien là, sous notre nez. Alors nous, dans Pensée Positive, on est plein de gratitude hein, pour tous ceux que l'on connaît, nos proches, nos familles, nos amis, ces services rendus, ces cadeaux. Et on a eu envie d'élargir un peu le cercle, de jouer des coudes et de l'ouvrir aux inconnus, à cette dame qui a stoppé sa course pour vous aider à vous relever après cette grosse chute dans la rue, à cet homme qui s'est interposé alors que vous vous faisiez importuner. Toutes ces belles histoires, on vous invite à les poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag merci à un inconnu, parce que certes, il y a de nombreux ports à balancer, mais il y a aussi de beaux moments de générosité à partager. Bonsoir Marie-Lou.
Bonsoir.
Alors, quel est l'inconnu que vous souhaitez remercier ce soir?
Alors, je souhaite remercier un homme qui m'a sauvé la vie, en quelque sorte, il y a une vingtaine d'années. Je rentrais de soirée très tard, il pleuvait énormément, et je me suis retrouvée coincée, vraiment dans une rue inondée, avec la voiture coincée, au milieu de nulle part. Il y a une vingtaine d'années, il n'y avait donc pas de téléphone portable, je ne pouvais donc prévenir personne. Mm-hmm. Donc je me suis mise à marcher sur le bord de la route.
Il faut sous des trombes d'eau.
Voilà, il est 4 heures du matin, il fait nuit noire, il y a des trombes d'eau, donc je me sens très 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 seule. Une voiture finit par s'arrêter. Et il y a une petite famille, très 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 bien habillée. Vraiment, je pense qu'ils sortent d'une soirée de gala. Ils tout de suite s'arrêtent, me demandent ce qui se passe et j'explique la situation. Et tout de suite, il me propose, le monsieur me propose de l'aide, enfin me propose de venir m'aider. Il arrive et ma voiture est donc au milieu de la route, sous 50 cm d'eau, même un peu plus, je pense. Et tout de suite, en fait, sans réfléchir, sans me poser de questions, il me dit bah, on va essayer de la mettre sur le côté d'abord. Et il est donc avec ce magnifique costume, ces magnifiques chaussures vernies dont je me souviens très bien.
Qu'il va ruiner.
Qu'il va ruiner dans 2 secondes. Il ne réfléchit pas une seconde, il ne se pose pas de questions. Il fonce, voilà, les pieds dans l'eau, et il m'aide à pousser la voiture. Derrière, je vois que sa femme marque un quelque peu d'impatience. Les enfants dorment à l'arrière, donc je lui demande juste s'il peut me déposer à une station, enfin une cabine téléphonique en l'occurrence à l'époque, pour que je puisse appeler chez moi, pour que quelqu'un vienne me chercher. Et puis, en fait, il refuse. Il traverse vraiment la ville. On en a pour à peu près une demi-heure où je vois que sa femme est vraiment pas contente de cette situation. Et il a donc traversé la ville et m'a déposé en bas de chez moi. Je l'ai remercié énormément tout le long du trajet. Je lui ai demandé à plusieurs reprises quelles étaient ses coordonnées parce que, bien évidemment, j'habitais encore chez mes parents à l'époque. Donc, j'imaginais bien que mes parents allaient aussi vouloir le remercier. Et évidemment, il a refusé. Donc, je profite de ce merci à un inconnu pour remercier vraiment du fond du cœur cet étranger qui m'a sauvé la vie et dont vraiment je me souviens encore comme si c'était hier. Et ça date de 20 ans et j'ai vraiment encore son visage en tête parce que vraiment il m'a sauvé d'une belle impasse.
Et c'est chose faite ce soir. Oui, il y a de belles âmes à honorer. Merci beaucoup Marie-Lou.
Bonne soirée.
Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise. Hein. Si jamais ce monsieur se reconnaît, on a créé une adresse mail. Ça s'appelle laréponsedelinconnu@gmail.com.
On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Alors non, on a dit pensée positive. Hein. Pourquoi malentendu tout de suite? Non, l'idée, c'est qu'il entende. Et qu'il entende bien, non? Et vous, Mathilde Vermeer, Béatrice Blouet, quels sont les inconnus que vous souhaitez remercier, Béatrice?
Alors moi, c'était lors de mon premier concert. Je chantais des chansons françaises, des reprises. Et j'avais pas trop de problèmes vocalement ou techniquement. Voilà. Mais par contre, sur l'interprétation et sur ma capacité à embarquer un public dans les histoires des chansons que je cherchais à interpréter, j'en avais beaucoup plus. Et je chante une chanson de Véronique Sanson qui s'appelle Une odeur de neige, qui se termine dont le refrain fait « Je voudrais le revoir cette année, je voudrais le revoir », en parlant d'un homme qui est parti, évidemment. Et je chante ma chanson, et à la fin, il y a une dame âgée qui était devant, qui se lève, qui me prend les mains. Elle avait les yeux pleins de larmes, et elle me dit « Mais vous inquiétez pas, il va revenir. Vous inquiétez pas, il va revenir. » Et du coup, moi, ça m'a vraiment très, très touchée, parce que elle m'a vraiment donné le socle de confiance pour le fait que j'arrivais à interpréter et à embarquer dans une chanson. Mais par contre, il n'est pas revenu. Et je ne l'ai pas revu cette année.
Il n'est jamais revenu. Et vous, Mathilde Vermeer, quel est l'inconnu que vous souhaitez remercier ce soir?
Alors moi, j'ai beaucoup voyagé, notamment en Asie, toute seule. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de gens à des nombreux moments avec qui il y a eu une intimité très forte, comme ça, sur un instant.
Et ça m'a bizarre, beaucoup... cette phrase. Hein, on a l'impression qu'il y a des amants un peu partout en Asie. L'intimité, qu'est-ce qu'on met derrière le mot intimité?
Je ne répondrai pas à cette question. Mais je me rappelle en particulier d'une femme, une vietnamienne. J'étais perdue dans le delta du Mekong. J'avais décidé de prendre une route qui n'était pas balisée. Et je me retrouve dans un village perdu. Et tout d'un coup, je me rends compte que dans ce village, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Et je ne sais plus quoi faire. Il est 18h, la nuit va tomber. Et je vois cette femme arriver sur son scooter, qui me prend avec mon sac à dos gros comme une tortue. J'avais l'air d'une grosse tortue. Et qui m'a conduit à un endroit pour dormir. Et le lendemain, qui est revenu me chercher pour aller montrer le Mekong. Et tout ça sans qu'on arrive à échanger des mots, parce qu'elle ne parlait pas l'anglais. Et donc moi, je ne parlais pas le vietnamien. Et donc tout ça s'est fait avec une grande douceur, une grande amitié. Et c'était très, très beau. Et je me rappelle toujours toujours de cette femme qui m'a montré son pays.
Merci pour vos belles histoires. Vous aussi, chez vous, envoyez-nous vos beaux récits. Hashtag merci à un inconnu sur les réseaux sociaux. Vous nous postez vos histoires et vous viendrez les raconter à l'antenne dès la semaine prochaine. Allez, le temps d'imprimer 2 ou 3 chapitres pour une petite relecture allongée dans le hamac à l'ombre. Et Pensée Positive revient dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, Pensée Positive. Europe 1, Pensée Positive. Anne Cazobon.
Vous êtes toujours là ? Ça tombe bien, nous aussi, ensemble jusqu'à 20h pour voir le verre à moitié plein. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il se remplit en permanence de pensées positives. On ne sait pas comment ça marche, mais c'est comme ça. On est toujours en compagnie de 2 femmes qui écrivent, qui expérimentent les mots sous toutes leurs formes. Mathilde Vermeer, on peut lire vos chroniques contemporaines que vous choisissez de partager au plus grand nombre sur les réseaux sociaux. Pourquoi d'ailleurs ce choix d'offrir au monde vos mots ? C'est très généreux, d'abord, c'est vrai ?
Ça répond à plusieurs choses. D'abord, les lecteurs ont changé. Les lecteurs lisent peut-être moins de livres, mais ils sont beaucoup sur leur téléphone. Et donc, on lit court, on lit un texte. Et j'avais envie, moi, d'utiliser une page Facebook pour faire 2 choses. 1, mettre de la poésie, que j'associe à un tableau, parce que je trouve que la poésie, ce qui crée de la sensibilité et nous relie les uns aux autres, ça crée un partage d'émotions, un partage d'expériences. Donc je mets de la poésie, qu'elle soit française ou étrangère, contemporaine ou plus classique, donc ça va de Victor Hugo, de Neruda, à des auteurs peut-être que vous connaissez moins, Dorothy Barker ou Anna de Noailles qu'on a oublié, donc des hommes, des femmes de différents horizons. Donc voilà, mettre de la poésie, réenchanter le monde par la poésie.
Et les réseaux sociaux qui en ont tellement besoin.
Voilà. Et puis, je publie des chroniques qui sont une manière de faire rencontrer à mes lecteurs mon univers, les emmener dans des petites histoires. Donc l'année dernière, c'était les chroniques de l'ailleurs, et donc je parlais beaucoup de voyages et d'expériences de voyage. Et cette année, dans la chronique... chronique de nos vies, il s'agit de faire des portraits de gens qui s'impliquent dans ce monde qui change et qui prennent des risques. C'est une éloge du risque. Donc ça va à des gens qui lancent une entreprise, qui se lancent dans un investissement, enfin dans une entreprise écologique, un projet écologique ou un projet éducatif différent, et du coup qui ont des idées qui sont un peu différentes et qu'il est bon de relayer, comme vous le faites sur Europe 1, de mettre un peu de pensée positive.
Voilà. Alors, on en le disait en introduction, plus d'un Français sur 3 a déjà écrit ou a pensé à écrire, et il paraît que l'appétit d'écrire vient en mangeant et revient particulièrement après 50 ans. C'est ce que vous sentez, vous également ?
Je me sens un petit peu visée.
Est-ce que vous, Béatrice Blouet, on ne dévoilera pas votre âge, mais est-ce que justement c'est ça qui vient, la cinquantaine passée, on se dit qu'on a envie de d'écrire sur sa vie, on regarde dans le rétroviseur, on se retourne ?
Oh, je ne sais pas si on se retourne comme ça si facilement, mais je pense qu'il y a certaines choses, c'est bon quoi. Là, si c'est pas maintenant, ce sera peut-être jamais, donc c'est bon. On a passé peut-être beaucoup d'années à retenir, beaucoup d'années à ne pas exprimer exactement, donc là, on se lâche un peu.
Et on y va, et on se jette sur un clavier. Vous, Mathilde Vermeer, vous accompagnez beaucoup de femmes lors de stages d'autobiographie au féminin. Est-ce que vous remarquez justement qu'il y a plutôt des quinquagénaires qui viennent à vous, ou c'est plutôt assez hétérogène ?
Non, il y a des gens de tous les âges, de 20 à 70 ans et plus.
Pourquoi elles viennent, ces femmes d'ailleurs ?
Je pense qu'en fait, effectivement, c'est quelque chose qui s'impose à elles à un moment où elles ont besoin d'écrire pour revisiter peut-être un moment de leur vie. Et aussi, moi, ce que je propose, c'est vraiment un travail autour de, finalement, ce devenir femme dont nous parle Simone de Beauvoir. C'est pas si évident. On vit pas tout à fait les mêmes vies, même en Occident aujourd'hui, où on a des droits qui ont été posés, mais on vit pas les mêmes vies quand on est un homme et une femme. Et donc l'écriture est le lieu pour revisiter certains épisodes de sa vie, voir aussi comment on a négocié avec les normes sociales qui pèsent particulièrement aux femmes. Et puis je crois que les femmes ont toujours eu une position particulière dans la vie et dans les familles, dans leur rôle de transmission, à la fois parce qu'elles s'occupent des aînés, elles s'occupent des plus jeunes, elles sont témoins de plein de choses, et elles sont vraiment des chaînes dans la transmission. Elles ont aussi un rapport et un accès très différent à leurs émotions, à leur intimité, et pas que amoureuse. Et du coup, elles ont tout un matériau qui fait qu'elles peuvent se mettre à écrire. Et peut-être aussi, finalement, que notre société favorise plus une forme d'introspection pour les femmes. Et du coup, c'est plus naturel, elles se compliquent moins la vie que les hommes à pouvoir raconter des choses qui sont plus intimes, plus personnelles.
Béatrice Blouet, vous nous disiez que ce sur quoi vous écrivez en ce moment, ce journal de bord de vos aventures et mésaventures hospitalières, vous souhaitiez l'appeler
et pourtant tu as bonne mine.
Pourtant tu as bonne mine, oui.
Et vous disiez que c'était votre grand-mère qui disait cela.
Oui, c'est ma grand-mère qui était très malade et qui disait toujours, hein, qui voulait l'entendre, vous verrez, vous m'enterrerez avec ma bonne mine. Manifestement, j'ai dû hériter. Et j'avoue que autant tout le monde me dit, mais c'est super d'avoir bonne mine. Moi, je crois que des fois, c'est bien aussi quand l'intérieur correspond à l'extérieur. Et quand on va vraiment pas bien, c'est bien que ça se marque un petit peu sur le visage et non pas d'avoir ces joues rebondies roses que j'ai. Voilà. Donc moi, des fois, je milite, j'aimerais avoir mauvaise mine.
Bon, je sais pas vous, mais après ça, moi, je crois que je me ferais bien une petite doucique. Vous savez, une de ces chansons qui vous a remonté le moral et que vous partagez avec nous, chers auditeurs, parce qu'elle pourrait bien en aider d'autres. Oui, la musique adoucit les mœurs et elle permet parfois, souvent, d'accompagner un moment un peu douloureux. Alors, je vous propose d'accueillir tout de suite Alison qui nous a envoyé un message sur les réseaux sociaux avec le hashtag pensée positive au pluriel. Bonsoir Alison.
Bonsoir Anne.
Alors vous, quel est le titre que vous écoutez pour vous remonter le moral dans les périodes un peu difficiles?
Alors moi c'est vraiment J'arrive de Ben Mazué.
Et pourquoi cette chanson alors?
En fait déjà je suis une fan de Ben Mazué et je trouve que c'est vraiment un artiste qui sait mettre les mots justes sur des émotions. Mm-hmm. En fait j'ai assisté à son rodage de sa dernière tournée. Il a chanté ses chansons avant de sortir son album devant un public. Et dès que cette chanson est arrivée, c'était la première chanson du concert, je me suis dit, waouh, je suis dans un tournant professionnel, donc j'ai parfois des doutes et il me suffit de l'écouter. Et...
Alors, quelles sont les phrases, justement, qui sont comme des mantras pour vous, comme des citations comme ça qui vous habitent au quotidien de cette chanson?
Alors, dans cette chanson, il dit « Attends-moi le monde, j'arrive, je réveillais l'espoir ». Attends-moi le monde, je cherchais en qui croire. Et pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Attends le monde, il faut que je me recentre et puis ça y est, quoi, on y va.
On s'arrête 2 minutes, on change les pneus et on repart pour une autre aventure, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Le monde vous attend en tout cas, Alison. On écoute tout de suite J'arrive de Ben Mazué. Merci, Alison.
Merci à vous.
Agrandis-moi, force la ferveur. Réponds-moi, inspire mes peurs. Porte ma croix, juste quelques heures, et donne-moi la foi, inspire mes peurs. Termine de signer entre les hommes l'idylle qui va me décider à rester anti-cynique. Résiste à mes idées, concile la branche sur laquelle on est assis sacré. Donne-moi des signes, attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je cherche en qui croire. J'arrive, j'arrive. Excuse mes fautes, dis que c'était pas si grave. Que c'est que des échimaux, des bobos. Dis-moi que tout est possible. Si à ceux qui bravent, l'important c'est pas de toucher la cible, mais c'est de la viser. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi, surtout. Sur toi, j'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout, sur toi, surtout, sur toi. Attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je cherchais en qui croire. J'arrive, j'arrive.
Attends-moi le monde, j'arrive, nous chante Ben Mazué. C'est un peu une chanson tapis rouge pour accueillir cette nouvelle version de vous-même que vous êtes en train de façonner, dont vous êtes en train d'accoucher. Qui sait? Peut-être l'écrivain qui sommeille en vous, l'auteur qui ne demande qu'à être lu. En attendant, le prix Goncourt et tous ces coups de fil d'éditeur, il va sérieusement falloir imprimer, vous croyez pas?
Europe 1, pensée positive. Anne Cazobon.
Bon, on va pas se mentir, c'est un peu la dernière ligne droite de pensée positive.
Faut reconnaître, c'est du brutal.
Et pourtant, j'ai tout fait pour vous ménager, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Vous voyez comment ça chamboule un peu à l'intérieur, hein, quand on vous parle de vos aspirations profondes, de tous ces talents que vous ignorez en vous et qui ne demandent qu'à vivre leur vie au grand jour. Ah, on en redemande, hein? Alors mesdames, cette émission ne peut pas se terminer sans son rituel de fin. Vous le savez, en développement personnel, c'est important les rituels. C'est surtout l'occasion de transmettre à d'autres ce qui vous a aidé à avancer. Pour ma part, c'est en écoutant ceux qui avaient justement touché le fond de la piscine, qui étaient remontés et qui venaient nous raconter dans un micro ou à la télé comment ils avaient réussi à rebondir. Voilà, on va essayer de transmettre aux auditeurs toutes ces pensées positives et on ne sait jamais surtout ce que ça peut semer chez l'autre, de l'autre côté du poste, à la maison. Alors, à vous de nous inspirer, Béatrice Blouet et Mathilde Vermeer. Première question, quel est votre mantra? Vous savez, c'est cette petite phrase qui vous fait avancer, celle que vous avez peut-être punaisée juste au-dessus de votre ordinateur pour, dès que vous avez un moment de rêverie, que vos yeux se posent dessus. Béatrice Blouet.
C'est la phrase de Talleyrand, si cela va sans dire, cela ira forcément mieux en le disant. Qui prend pas mal de sens en ce moment, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup, parce que parfois on se dit que c'est tellement évident que, bah oui, bien sûr, ça n'a pas besoin d'être dit, mais c'est tellement mieux quand c'est dit ou exprimé.
Non mais oui, disons tout, disons-nous. Mathilde Vermeer.
Alors moi, c'est une phrase que m'a dit une éditrice il y a quelques années déjà, qui m'a dit « un roman, ce n'est pas intellectuel ». C'est une phrase qui m'a désarçonnée, parce que je me suis dit « bah bon, mais on écrit quand même avec sa tête ». Et en fait, ce que j'ai compris plus tard, c'est que l'écriture, comme tout autre processus de création, ça vient des tripes, ça vient de l'inconscient, si on travaille toujours avec son inconscient. Et du coup aussi, on va écrire quand on parcourir, quand on va nager, quand on fait la vaisselle, quand on fait son ménage, ça travaille de plein d'autres endroits, et j'aime beaucoup cette phrase. En fait, ça, c'est une invitation aussi à pas trop se prendre la tête finalement.
Quel est le livre à toutes les deux qui vous a fait avancer ou comprendre quelque chose de crucial? Le livre que vous offrez d'ailleurs peut-être à d'autres aujourd'hui, Béatrice Blouet.
Moi, c'est un livre avec un titre particulièrement intelligent. Mmh. Et déjà, je m'excuse de ce titre-là, mais c'est pas le mien. Ça s'appelle « Qui a piqué mon fromage ?» de Spencer Johnson. Alors, évidemment, je pourrais dire il faudrait lire « Martine à la mer » pour comprendre mon parcours. Mais vraiment, « Qui a piqué mon fromage ?» c'est une petite fable très intéressante. Et la dernière question, c'est « Et vous, que feriez-vous si vous n'aviez pas peur ?»
Et votre livre à vous, Mathilde Vermeer?
Ben moi, je crois que ça serait pas un livre de développement personnel, ça serait de la littérature, parce que la littérature nous aide à vivre et à se relier à du plus vaste. Donc ce serait en fait Marguerite Duras et L'Amant, que je trouve un bouquin magnifique sur la construction de soi en tant que femme, en tant qu'écrivain et aussi en tant qu'amoureuse. Voilà.
Pour terminer, quel est votre antidote? Que faites-vous quand la vie tangue un peu trop?
Moi, je trie les patates.
Oui.
Donc tous les sujets en même temps et on se classe ce qui est important, ce qui est pas important, ce qui est urgent, ce qui est voilà. Donc ça s'appelle trier les patates.
Mathilde Vermeer.
Et ben moi j'ai plusieurs stratégies, danser par exemple, mais surtout lire et quand je peux lire dans mon bain, ça c'est le pied total.
Oh là là, quand on vous comprend. Un grand merci en tout cas à toutes les deux. Mathilde Vermeer, je rappelle que vous êtes auteure, qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur votre site mathildevermeer.fr, découvrir vos nouvelles, vos textes, vos chroniques de nos vies. Béatrice Blouet, merci d'être venue nous raconter comment vous mettez à distance ce que vous traversez avec l'écriture. On croise les doigts pour votre ouvrage.
Merci.
Et pourtant tu as bonne mine, on a hâte de le trouver sur les étals des livres. Ici un éditeur à le coup de foudre pour ce feuilleton illustré qu'il nous appelle. J'en profite pour vous signaler la parution en kiosque d'un hors-série très intelligent proposé par le magazine Psychologie Positive sur l'écriture créative. Il est plutôt très bien fait, de quoi bronzer intelligent. Un grand merci à Magali Buteau, la perle des collaboratrices qui m'a aidé à préparer cette émission, ainsi qu'à Marc Ernwein qui l'a réalisé d'une main de maître. La semaine prochaine dans Pensées Positives, on s'intéressera cette fois-ci à la créativité. Si, on est tous des artistes, enfin, visiblement un certain nombre qui s'ignore. Alors une nouvelle fois, on va profiter de ce temps de l'été pour réaliser nos potentiels et donner un coup d'accélérateur à notre créativité qui peut s'exprimer sur une multitude de terrains différents. Dans un instant, vous retrouvez Lionel Rousseau pour Europe 1 Sport.
Pensée positive sur Europe 1. Anne Cazot.